Bonjour, c'est Sonia Kronlund. Les pieds sur terre, c'est des histoires, des enquêtes, des reportages. Et en fin de semaine, je vous propose en bonus des épisodes forts, marquants ou touchants à redécouvrir. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
Ce sont des chiffres publiés le 1er mars de chaque année depuis 2018. Chaque entreprise de plus de 50 salariés y dévoile son score index égalité, c'est-à-dire ses performances sur le plan de l'égalité homme-femme. 4 ou 5 critères permettent de le calculer et si vous avez une mauvaise note, en dessous de 75 sur 100, il y a mise à l'amende, sonnante et trébuchante et pas du tout symbolique. Mais vous avez quand même 3 ans pour appliquer FISA quelques mesures correctrices. À Radio France, par exemple, on a une super bonne note, 93 sur 100 en 2019, et 20 sur 20 à plusieurs critères, comme les écarts d'augmentation individuelle de salaire entre les femmes et les hommes. En gros, ça veut dire qu'il n'y a aucun écart. Mais cet index ne suffit pas, hélas, à être tout à fait sûr qu'il n'y a dans les entreprises aucune discrimination sexiste. D'abord, les critères sont à discuter, et puis, ce qu'on appelle le plafond de verre qui limite les progressions de carrière ne se brise pas comme ça. Et on n'est pas prêt non plus de se débarrasser de ce qu'on appelle maintenant le plancher collant, c'est-à-dire tous les temps partiels et les bas salaires surreprésentés chez les femmes, sauf à Radio France, bien sûr. Tout de suite, dans les pieds sur terre, on parle de ça avec une salariée et une inspectrice du travail qui racontent leur combat au quotidien pour une véritable égalité à Judith Chétrit.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
En 92, j'avais 30 ans. J'étais ce que l'on appelait à l'époque conseiller commercial au sein d'une agence avec une clientèle de particuliers. J'accompagnais les clients dans la réalisation de leurs projets, soit en leur proposant des produits d'épargne, soit en réalisant des projets de crédit immobilier. Alors lorsque j'ai été recrutée, c'était une décision d'un membre du directoire à l'époque qui avait décidé d'aller chercher des personnes dans des établissements bancaires concurrents qui avaient de l'expérience, pour en faire des commerciaux aguerris très rapidement. Donc nous étions recrutés avec une classification de base et on devait évoluer très très rapidement. Mais quand je dis rapidement, c'est 1 an à 2 ans sur des classifications supérieures. Et pour son idée, c'était de prendre la direction d'agence ou de groupe d'agence. Voilà. J'ai commencé à travailler et effectivement, au bout de 2 ans, je n'avais toujours pas évolué, au bout de 3 ans non plus, 4 ans non plus. Je restais toujours au même poste et je constatais déjà que les hommes qui avaient été recrutés en même temps que moi avaient déjà pris des classifications, avaient déjà évolué. Et moi, comme les autres femmes d'ailleurs, restais toujours au même poste. Même poste et même salaire. J'ai postulé à 27 reprises un poste de catégorie supérieure, à 27 reprises en 9 ans. Parfois j'étais reçue, parfois je n'étais pas reçue, mais je n'ai jamais obtenu le poste de la classification supérieure malgré ce nombre important de candidatures. Il m'était alors invoqué la pyramide des âges, l'ancienneté, jamais la compétence. On me disait « tu as le profil, tu as la compétence, le prochain poste il sera pour toi ». Le prochain poste n'a pas été pour moi. J'ai bien compris à un moment donné que je ne l'aurai pas, cette évolution. Donc j'ai formalisé ma demande par écrit, demandé des entretiens, j'envoyais des courriers régulièrement. Donc en formalisant ma demande, j'ai réussi à avoir une classification supérieure sur un métier de commercial, toujours sur le secteur de l'économie sociale. Et j'ai toujours continué à formaliser ma demande jusqu'à ce que l'entreprise... Alors, peut-être pour me faire cesser de réclamer, m'a passé au statut cadre. Mais alors là, j'avais le statut, mais en fait, le salaire était très, très, très en deçà du salaire des cadres hommes qui exerçaient le même métier que moi. Donc en fait, l'écart de salaire ne faisait que se creuser. Plus j'évoluais dans l'entreprise, plus l'écart se creusait. Alors comment je me suis rendu compte ? Parce que j'avais des fonctions syndicales. Avec ces fonctions syndicales, j'ai participé à la commission égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et là, j'ai eu accès au bilan social de l'entreprise. Ça montre en fait tous les salaires moyens des hommes, des femmes, par catégorie, par classification, par ancienneté, par diplôme, par genre également. Alors comment j'ai fait le lien ? J'ai croisé tous les chiffres. Mon âge, mon expérience dans l'entreprise, ma classification, mon diplôme. Et là, je voyais que dans toutes les cases, j'étais en dessous au niveau salaire. Lorsque je commence à formaliser, être un petit peu à insister auprès de l'employeur pour mettre mon salaire à niveau, j'ai à peu près 43 ans. Et je gagne environ entre 2500 et 2700 euros brut par mois. Je mets ça sur la table et je discute là-dessus. Ce à quoi l'employeur, lui, met d'autres chiffres, qu'il le fabrique. Alors comment ? Il ne me le dit pas, mais je me souviens très bien d'une fois où il m'a comparé avec le salaire d'un nouveau entrant, salaire minimum de base. C'est le salaire en deçà duquel l'employeur n'embauche pas. Alors que quelques années avant, il me disait « Mais non, mais c'est à cause de la pyramide des âges que tu ne peux pas gagner comme les hommes, parce qu'ils ont plus d'expérience que toi. » Donc c'était en fait beaucoup de discours très très contradictoires de l'employeur, avec des chiffres qu'il fabriquait, et lui-même sans m'apporter la preuve de ces chiffres, en fait. Donc ça, je me dis, je ne peux pas l'accepter, donc je travaille encore le dossier pour essayer d'être encore plus persuasive auprès de l'employeur pour obtenir gain de cause. Je n'aurais pas continué cette démarche si on se situait à 50 euros de différence, même 100 euros par mois, je ne serais pas allée. Mais là, on était à peu près à 400 euros par mois d'écart. 400 euros par mois il y a 15 ans de ça, eh ben, c'est pas la même vie. Donc on ne fait pas les mêmes choses, on ne se loge pas dans les mêmes logements, on ne part pas en vacances comme les autres, on ne peut pas, ben, s'il faut faire des frais pour se soigner, on ne peut pas le faire comme les autres. C'est énorme, 400 euros par mois. Bon, il faut reconnaître que j'avais quand même mal de quoi vivre, hein, je ne sais pas, ce n'était pas la misère non plus. Mais cette inégalité, pour moi, n'est pas acceptable tant qu'elle n'est pas justifiée. Non seulement j'avais un écart de salaire important avec les hommes, mais en plus, je devais travailler beaucoup plus pour arriver à mes objectifs, parce que ça ne se cantonne pas au salaire, en fait, la discrimination, l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que moi, j'avais, par exemple, avec mon statut cadre, je devais m'occuper de clients avec un certain niveau de budget, donc des clients importants, et donc des gros budgets, ce qu'on va dire. Mes objectifs étaient calculés en fonction de ça, mes objectifs étaient élevés. À côté de moi, il y avait des hommes qui relevaient de la catégorie inférieure, de la classification juste en dessous, qui devaient avoir en portefeuille des clients avec moins de budget, donc des objectifs moins élevés. Eh bien, mon responsable d'agence gérait en fait l'agence là, entre copains, c'est-à-dire qu'il leur affectait des clients qui devaient relever de mon portefeuille, il leur affectait à eux, et moi, il m'en affectait avec des budgets moins importants, ce qui fait que, en fait, je labourais un océan. Pour réussir à faire mes objectifs, il fallait que je travaille beaucoup plus. Donc là, j'ai dit, c'est plus possible. Je vais assigner l'employeur au prud'homme, en 2011. Mes collègues l'ont su, parce que la convocation est arrivée sur le bureau d'une des assistantes. Et c'est le début de l'enfer. Parce que là, mon directeur d'agence, qui déjà me mettait des bâtons dans les roues, ou me rendait difficile la réalisation de mon travail et de mes objectifs, là, en fait, ces pressions se sont transformées en harcèlement. Il m'a harcelée jusqu'à ce que je tombe malade. Il s'est immiscé dans ma relation avec mes clients, allant donner des informations contraires à ce que j'avais dit à mes clients, prenant des décisions contraires à ce que j'ai dit à mes clients, sans respecter la réglementation, les codes déontologiques, faisant des faux sur des dossiers de mes clients. Donc en fait, il m'a mis dans une situation impossible. Le médecin du travail, il a fait 5 demandes de changement de poste en 8 mois. L'employeur n'a pas donné suite. Jusqu'au moment où j'ai été arrêtée, il a envoyé une alerte à mon employeur qui m'a changé de poste, pour me mettre en fait dans un poste qui s'est avéré être un placard. Les tâches qui m'étaient confiées auraient pu être confiées à un élève de 3e. Et je partageais le bureau avec un collègue qui était surchargé de travail. J'écris au DRH 6 mois après ma mise au placard pour lui dire que les tâches qui me sont confiées ne correspondent pas à ma lettre de mission. Début décembre 2013, je lui écris. Et le 25 décembre 2013, je fais un AVC. sur pathologie cardiaque avec conditions de travail comme facteur aggravant. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai un jour un entretien. Alors, j'insiste lourdement auprès du délégué syndical central de ma section pour qu'il m'accompagne à un entretien. Parce que je reste toujours, même si j'ai assigné, je me dis si on peut trouver un terrain d'entente, je pourrais abandonner mon affaire au prud'homme. Donc, je vais à un entretien avec un responsable de la DRH, accompagné par le délégué syndical central. Et là, le responsable de la DRH me sort des chiffres, alors salaire annuel de base, des tableaux Excel, etc. Et il me propose, à l'issue de l'entretien, il me dit « je vous propose 1 000 euros d'augmentation annuelle brute ». Et je lui dis « et qu'est-ce que vous faites de l'arriéré ?» Il me dit « non, mais il n'y a pas d'arriéré ». Bon, je dis « je sors de l'entretien ». Moi, j'avais calculé que pour m'approcher du salaire moyen des hommes, il fallait obtenir 6 000 euros d'augmentation annuelle brute. Et le délégué syndical central, à la sortie de l'entretien, me dit « tu devrais accepter ». L'audience au Conseil de Prud'homme a lieu au cours de l'automne 2014. Alors là, c'est un moment très pénible, puisque l'avocat de mon employeur s'est appliqué à me salir auprès des juges, comme l'employeur l'a fait d'ailleurs auprès de mes collègues. C'est-à-dire qu'il me présentait comme quelqu'un d'instable. On ne sait pas ce qu'elle veut. Alors, est-ce que c'est de l'égalité entre les hommes et les femmes? Est-ce que c'est de la discrimination syndicale? Elle se plaint de ne pas avoir évolué. Donc, c'était sans arrêt des propos diffamants à mon égard. Et la décision donc a été donnée un mois plus tard. Le juge a fait en fait un calcul entre le salaire moyen des femmes et le salaire moyen des hommes. Donc ça me valait une augmentation de salaire de 400 euros par mois. J'avais demandé le salaire moyen des hommes. Donc c'était un petit peu en deçà, mais il y avait quand même un rappel de salaire non négligeable sur les 5 années précédentes. Donc un rappel de salaire de 52 000 euros. Je savais que mon employeur allait faire appel, et mon avocate aussi d'ailleurs. Et ce qu'elle me dit... Madame Pujot, il faut trouver un collègue à vous qui a moins d'expérience que vous, qui a le même niveau de classification, donc la même typologie d'emploi, et qui gagne plus que vous. Donc ça, j'ai la chance à ce moment-là d'avoir un collègue qui a reçu, par erreur de l'employeur, un fichier avec l'ensemble des salaires des employés de l'établissement bancaire. Et là, je trouve, sans chercher bien loin... Un collègue à moi, rentré de mémoire 4 ans après moi, à peu près 4 ou 5 ans après moi, avec un salaire de 1 200 euros par mois de plus que moi. Donc je donne cet élément à mon avocate qui va le plaider à partir de cet élément en cour d'appel. En fait, l'employeur, il n'a pas réussi à apporter la preuve que cette différence de salaire était justifiée. Et j'obtiens 10 000 euros de dommages et intérêts, puisque la situation de discrimination contre laquelle j'ai eu à lutter est à l'origine d'une dégradation de mes conditions de travail et de mon état de santé. Il faut savoir quand même que, compte tenu de la lenteur des procédures, de la longueur des procédures plus exactement, la Cour d'appel a donné sa décision en mai 2017. Or, moi, j'ai été harcelée depuis 2011, j'ai été en arrêt de travail en 2015... Je n'ai jamais pu reprendre le travail, ce qui fait que je n'ai jamais pu bénéficier de la décision de la Cour d'appel. Donc c'est une victoire, certes, c'est une victoire théorique, mais en fait je n'en bénéficie pas. Je n'ai bénéficié que du rappel de salaire. Je ne sais pas si ça a fait des émules. Ce que je sais et ce que je regrette, c'est que lorsque j'ai été licenciée, j'ai été reçue par l'inspecteur du travail. L'employeur avait envoyé un dossier à l'inspecteur du travail avec mon historique, en fait, ou plutôt mon historique vu par l'employeur, puisqu'il avait quand même oublié pas mal de choses. Et il avait oublié de signaler à l'inspecteur du travail que j'avais engagé une procédure que j'avais gagnée. Alors même que... Lorsque l'inspecteur du travail m'a reçu, il m'a dit « Je suis étonnée de ne pas être au courant de votre affaire. parce que j'étais dans l'établissement il y a 15 jours pour aider l'entreprise et les organisations syndicales à travailler sur l'index égalité hommes-femmes et personne ne m'a parlé de votre dossier. C'est affligeant. En fait, la force de l'employeur, c'est d'arriver à décourager les femmes qui veulent faire valoir leurs droits en les salissant quelque part. Moi, j'ai par exemple entendu de la part de collègues, « Mais tu craches dans la soupe, t'as un salaire. Alors maintenant, en plus, t'es cadre. De quoi te plains-tu ?» Donc en fait, les femmes qui oseraient y aller, en fait, ils les amènent à culpabiliser de faire valoir leurs droits. Et ça, c'est pas acceptable. I can see you.
Je suis inspectrice du travail depuis une dizaine d'années. Après mes études de droit, j'ai tout de suite passé le concours de l'inspection du travail parce qu'en fait, c'était un métier que j'ai voulu faire assez tôt. Je l'ai découvert en première année de droit. Et ce qui m'a tout de suite attirée dans ce métier, c'est le côté Zorro, le côté justicière. Parce que malgré toute l'évolution justement du métier d'inspecteur du travail, on a toujours la possibilité d'aider des gens. Je suis devenue féministe, en tout cas j'ai pris conscience que j'étais féministe pendant mes études, ce qui m'a conduit à m'intéresser d'un peu plus près à l'histoire du droit du travail du côté des femmes. Et donc je me suis intéressée au principe d'égalité salariale. Assez tôt aussi, des parents qui ont divorcé quand j'étais assez jeune et la question quand même de l'argent qui était assez prégnante, j'ai compris assez vite, je pense, l'importance de l'indépendance économique dans le sens où mon père, on jouait un peu pour embêter ma mère et nous emmener, nous, enfants, dans des histoires qui ne nous concernaient pas. Elle avait un métier où elle gagnait beaucoup moins que mon père, qui gagnait beaucoup plus d'argent. Bon, situation assez classique, somme toute. Mais qui, au moment d'une séparation, évidemment, devient beaucoup plus problématique. Quoi, dans une situation où c'était elle, avec son salaire, qui contribuait au ménage. Ma maman s'est arrêtée pour s'occuper de nous quand on est née. Ensuite, elle était à temps partiel. Donc c'est vrai que mon histoire familiale est assez caricaturale de ce point de vue, quoi, en termes d'investissement avec l'arrivée des enfants, mais aussi d'investissement financier aussi. Et donc c'est comme ça que quand j'ai commencé comme inspectrice du travail, je me suis tout de suite posé la question de la place des femmes dans l'entreprise.
Julie témoigne ici sous un nom d'emprunt. Avant même qu'elle ne commence à mener des inspections, son directeur lui a bien rappelé que mettre un pas dans l'entreprise, c'était entrer dans le monde des hommes. Surtout dans son périmètre, qui comprend beaucoup de sociétés liées à l'industrie agroalimentaire ou le BTP.
Quand je menais mes premiers contrôles, j'essayais à chaque fois d'être attentive à la place des femmes, c'est-à-dire quel poste elles occupaient, qu'est-ce qu'elles faisaient. Je me souviens d'une industrie agroalimentaire où, en fait, j'expliquais donc ça au patron, que quand même, là, je trouvais que c'était très, très marqué, quoi, cette différence entre les femmes et les hommes. Et je l'interrogeais sur les raisons qui faisaient qu'il affectait des femmes sur ces postes-là et des hommes sur ces postes-là. Et il m'a répondu en rigolant que, quand même, madame l'inspectrice, vous comprenez bien, vous voulez qu'on fasse un bras de fer. Donc pour lui, c'était vraiment pour me démontrer que de toute façon, les hommes sont plus forts que les femmes et que donc, il n'y a pas trop de sujets, en fait.
Mais ça, vous le constatez, mais ce n'est pas une infraction.
Ce n'est pas une infraction, oui et non, parce que quand même, on ne doit pas considérer le sexe pour affecter des travailleurs. Ça peut avoir des conséquences aussi en termes d'évolution de carrière, sur qui devient agent de maîtrise. Et ça a des conséquences énormes en termes de conditions de travail et derrière de santé au travail, quoi.
« dès ses débuts à l'inspection du travail, Julie sait que les enquêtes seront difficiles à mener. 3 ans après sa prise de poste, Julie est contactée par une déléguée syndicale qui travaille dans une usine agroalimentaire. Son entreprise lui propose de signer un accord sur l'égalité femmes-hommes. L'élu du personnel trouve que le texte proposé est trop vague et trompeur sur la progression des femmes agents de maîtrise.
Et en fait, elle était choquée par le préambule de cet accord collectif qui disait que tout allait bien, en gros, dans l'entreprise, quoi. Qu'on était quasiment à l'égalité en termes de rémunération, en termes d'accès au poste. Et elle, ça la choquait parce qu'en fait, ça faisait pas du tout écho à son ressenti, pas tant sur les salaires que sur les évolutions de carrière. Elle savait pas comment porter ça dans l'entreprise aussi, parce qu'elle avait peur, et c'était vraiment ses mots, de rallumer une guerre des sexes entre les femmes et les hommes et que ça pouvait du coup générer des tensions. Et après, je pense qu'elle avait raison.
Julie décide donc de faire un contrôle et écrit un courrier à cette entreprise. Elle mentionne bien que l'objet du contrôle, c'est le respect de l'égalité professionnelle. C'est-à-dire, à travail égal, salaire égal pour tous les salariés d'une entreprise, que ce soit des hommes ou des femmes.
Là, c'était aussi une entreprise agroalimentaire, donc du coup, avec des conditions de travail très différentes et plus pénibles pour les femmes quand même, qui étaient soumises à des cadences. Même agent de maîtrise, elle pouvait être sollicitée aussi pour donner des coups de main sur la ligne. Elle pouvait pas se déplacer librement. Il fallait qu'elle demande pour aller aux toilettes, là où les hommes, eux, conduisaient des engins, avaient des temps de pause plus importants, pouvaient se déplacer librement dans l'entreprise. Donc elle vivait avec une profonde injustice ces différences de conditions de travail.
Julie mène une 20aine d'entretiens. Elle passe du temps à regarder en quoi consiste le travail des femmes et des hommes agents de maîtrise. Elle consulte aussi leurs bulletins de salaire respectifs. Mais elle ne trouve pas assez de preuves solides pour démontrer qu'il y a discrimination.
Ce qui n'a pas été simple, c'est qu'au final, je me suis intéressée à une catégorie professionnelle, les agents de maîtrise, qui sont entre les ouvriers et les cadres. Et en fait, ça représentait des métiers très très différents. Donc même si j'ai recueilli plein d'éléments assez intéressants, j'ai pas réussi au final à conclure sur les postes occupés par les femmes sont mieux ou moins valorisés que les postes occupés par les hommes. Après, c'était mon premier contrôle en fait sur le sujet. Je pense que j'aurais pas dû partir sur une catégorie professionnelle, mais vraiment considérer le poste de Madame Machin et le poste de Monsieur Bidule.
Quelque temps plus tard, Julie voit renaître un certain espoir lorsqu'elle est contactée par une salariée de cette même entreprise. C'est la loi, tous les salariés peuvent solliciter l'inspection du travail pour des questions ou des réclamations. Cette fois, la femme est cadre. À ce niveau dans l'entreprise, c'est la seule. L'histoire qu'elle lui raconte révolte Julie, même si elle est hélas assez courante.
Elle est arrêtée pour des raisons maternité. Et quand elle reprend le travail, en fait, le salarié dont elle était la chef est devenu son chef. Elle n'a plus accès à l'intranet de l'entreprise, parce que tout simplement, elle n'a plus accès à un ordinateur, elle n'a plus accès à son bureau. Et puis, elle m'explique aussi qu'auparavant, elle était déjà un peu à part, c'est-à-dire que je parlais de la rémunération tout à l'heure, il y a les primes, mais il y a aussi tous les avantages en nature, en fait.
La cadre ne reçoit pas les cadeaux des fournisseurs, n'a pas la même voiture de fonction que ses collègues. Et donc, en termes de rémunération, si on compte les primes et les avantages en nature, elle est clairement moins payée que les hommes. Cette fois-ci, Julie pense qu'avec un cas précis et individuel, elle pourra plus facilement prouver l'inégalité de rémunération et de considération. Mais la salariée hésite à aller plus loin. Elle a peur d'être découverte et de perdre son emploi. Finalement, elle quitte l'entreprise sans qu'un contrôle ne soit mené. Julie ne se décourage pas pour autant.
Et un peu dans le même temps, j'ai été amenée à discuter avec des collègues d'autres régions qui m'ont fait part en fait des obligations liées au retour de congé maternité. Parce qu'en fait, quand les femmes sont absentes pendant les périodes d'augmentation collective et individuelle en entreprise, elles doivent en bénéficier à leur retour. Donc là, moi, je découvre complètement cette obligation.
Comprenez bien, ce que Julie veut dire, c'est que lorsque les femmes sont en congé maternité, beaucoup d'entreprises en profitent pour ne pas les inclure automatiquement dans les augmentations collectives de salaire, comme si elles ne faisaient plus partie de l'entreprise, alors qu'elles devraient en bénéficier comme le reste de leurs collègues, même lorsqu'elles ont été absentes. C'est la loi qui prévoit ce rattrapage salarial à leur retour de congé. Voilà un combat à mener, se dit Julie. Concret, précis.
Donc du coup, je me dis que ce serait peut-être bien de faire un autre contrôle test sur une autre obligation. Et c'est comme ça que je me retrouve à faire un contrôle dans un établissement financier. Parce que bien entendu qu'il vaut mieux aller faire des contrôles sur ces sujets dans des entreprises qui ont des politiques d'augmentation individuelle et collective, ce qui n'est quand même pas de côté de toutes les entreprises. Donc j'adresse un courrier à cette entreprise je leur indique voilà, que je viendrai tel jour pour contrôler un certain nombre d'obligations liées à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et quand je me présente le jour dit, donc je suis accueillie par la directrice des ressources humaines, je lui explique ce que c'est le principe de rattrapage salarial. Et ça, en fait, la DRH, quand elle comprend vraiment la portée du principe, elle blêmit et elle me dit « Oh là là, mais ça va être le bordel !» Et donc ensuite, je demande un certain nombre de documents donc, qui me sont adressés par la suite à mon bureau, donc des bulletins de salaire, les dates aussi de congés des salariés en congé maternité cette année-là. Et je me rends compte qu'il y a 11 salariés qui étaient bien en congé maternité au moment des augmentations individuelles et collectives et qui n'ont pas bénéficié à leur retour. Mais c'était vraiment un montant significatif, quoi. On ne parle pas de 5 euros, quoi. On était plutôt autour de 1000 euros qu'autre chose. Et donc j'ai demandé la régularisation, ce qui a été fait par l'employeur. Et comme l'employeur a régularisé l'infraction, ça a donné lieu à un classement sans suite de ma procédure. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'après le contrôle, j'ai été contactée par une des salariées que j'avais informée de ma procédure pénale, qui m'a expliqué qu'en fait, la DRH était bien au courant de l'obligation de rattrapage salarial, puisque elle-même l'en avait informée. Et la salariée me précise aussi que certes, elles ont reçu une régularisation, mais on ne leur a jamais expliqué pourquoi. Et en effet, sur leur bulletin de salaire, il y avait juste marqué « régularisation », sans expliquer le pourquoi du comment. Ce qui fait que les salariés n'étaient pas forcément informés que pour d'autres grossesses, elles pourraient en bénéficier, ou que d'autres collègues dans la même situation peuvent en bénéficier aussi. Ce qui me fait espérer, c'est que ce qui aidait quand même globalement les femmes à agir et à réagir face à des situations d'inégalité, c'est de savoir qu'elles n'étaient pas seules et qu'elles étaient soutenues. Je pense que c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Et aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui est beaucoup plus porté, beaucoup plus visible. Donc c'est ce qui me fait garder espoir, hein, que ce soit au sein de l'inspection du travail que dans les entreprises.
C'était plafond de verre et plancher collant, les inégalités professionnelles hommes-femmes, un reportage de Judith Chétrit réalisé par Anne Depelchin. Merci à Anita Pujot, à Julie, l'inspectrice du travail, et une pensée pour maître Emmanuel Boussard-Véricia qui s'est beaucoup battu sur cette question. Merci également à Jeanne Coppet, notre merveilleuse attachée de production, ainsi qu'à Solène Vanet-Comac, notre stagiaire.